La première, c'était que Job était un livre difficile pour plusieurs raisons. Vous vous rappelez, un livre poétique, un livre difficile à cerner, un livre difficile à lire, mais que c'était en fait un livre aussi très utile, super. Vous avez fri, vous avez tout compris. Un livre utile pour nous-mêmes, pour nous aider à persévérer dans la confiance que nous avons placée en Dieu, en toutes circonstances, un livre aussi utile pour les autres, pour attirer leur attention sur la réponse que Dieu finalement donne dans la Bible, la réponse de la croix. La croix sur laquelle Jésus a souffert injustement pour nous, pour nos péchés, pour nous amener à lui. C'est pas grave. Merci quand même, Nicolas. Et aujourd'hui, après avoir fait quelques remarques pour nous aider vraiment à comprendre le livre de Job, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va lui rentrer dans l'art à Job. Ça vous dit ? On va rentrer dans le vif du sujet. Ok, Johan aime ça. Moi aussi. Ok. Merci à Guillaume d'avoir prié pour nous avant. Pensez-vous que Dieu gère bien votre vie, personnellement ? Pensez-vous qu'il gère bien le monde dans lequel vous vivez, le monde dans lequel nous vivons ? En d'autres termes, et puisque nous sommes dans le livre de Job, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, pensez-vous que Dieu fait bien son ? Vous avez fri, vous avez tout compris, super. Comme nous l'avons vu hier, vous vous rappelez, ce sont vraiment les questions fondamentales que pose ce livre et que l'on pourrait résumer ainsi. Dieu est-il Dieu ? Dieu est-il Dieu ? Merci. Dieu est-il Dieu ? Et vous voyez le prologue, les deux premiers chapitres que nous allons lire ce matin, jouent un rôle capital, comme sur M6. Capital. Dans le livre. Capital, ça va, tout le monde connaît ? Blague à part, ce prologue joue un rôle très, très, très important, non seulement pour nous donner des informations importantes, pour répondre à ces questions, d'accord ? Mais aussi pour nous aider à comprendre la suite du livre. J'aimerais vraiment vous encourager à essayer de vous concentrer pendant les 20, 25 minutes, 30 minutes maximum aujourd'hui, parce que ce prologue va nous donner des informations vraiment très, très importantes pour nous aider à comprendre les livres de Job jusqu'à la fin. Comme nous l'avons vu hier, nous ne savons pas Job a vécu, vous vous rappelez, le pays d'Utz ou le pays d'Outz, on ne sait pas très bien où c'est. Mais ce que nous savons, c'est comment Job a vécu. Ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un homme sans péché. Seul le Seigneur Jésus est parfait, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est la Bible qui le dit. Mais c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Je vous propose de lire ensemble les 5 premiers versets de Job. Job chapitre 1. Versets 1 à 5, et je vous rappelle qu'il y a des livrets à votre disposition à la page 14 aujourd'hui, et que le plan de ce message est intégralement inclus dans ce livret. Ça va vous aider à suivre, j'espère, peut-être à prendre des notes. Et rappelez-vous, à la fin, pour qu'il ne vous manque pas une case, aujourd'hui, cette semaine, il y a une case spécifiquement consacrée à l'application. Je rappelle que c'est une case que je vous encourage à remplir. Quelle est l'application principale tirée de ce texte pour ma vie, d'accord ? Je ne sais pas si vous l'avez remplie hier, mais je vous encourage vraiment à la remplir aujourd'hui à partir de ce que nous allons dire. Lisons ensemble Job, chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Utz, ou d'Outz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste. Un holocauste, si vous étiez là l'année dernière, vous savez ce que c'est, d'accord ? Je ne rentre pas dans les détails. C'est un sacrifice d'un animal entièrement consumé par le feu. Je reprends la lecture pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché ? Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? Voilà ce que faisait toujours Job. La première chose que nous constatons, c'est que Job est un homme intègre et droit. Job est un homme extrêmement, extrêmement consciencieux. Il a 10 enfants, 7 fils, 3 filles, qui organisent des festins. Des festins, ce n'est pas forcément des soirées étudiantes, des grosses orgies. Des grosses orgies, ce sont des repas de fête, sans forcément qu'il y ait de débordement. Et une fois ces festins terminés, il offre des sacrifices qu'on pourrait qualifier de préventifs. Pourquoi préventifs ? Parce que Job prend toutes les précautions, absolument toutes les précautions, pour purifier chacun de ses enfants, il en a 10, pour qu'ils soient en état de s'approcher de Dieu, c'est la fonction d'un sacrifice, pour qu'ils soient libérés de toute culpabilité, écoutez bien, que pourrait entraîner un éventuel péché, un éventuel blasphème, ou ça, dans leur cœur. Dans leur cœur. Et Job se lève de bon matin pour faire ça. Ça ne veut pas forcément dire que, comme nous, il se lève très tôt, tous les matins, à 7h, 7h05, 7h10, 7h30, mais ça veut dire, en fait, qu'il le fait de manière consciencieuse. C'est une expression idiomatique en hébreu qui ne veut pas forcément dire qu'il se lève de très très bonne heure, mais que ce qu'il fait, il le fait consciencieusement. Et ce qui me fait dire ça, c'est la fin du texte. Voilà ce que faisait toujours Job, très consciencieusement. Okay ? Job est donc un homme intègre et droit, un vrai croyant de chez vrai croyant. 100% cohérent. Magnifique. On vous expliquera plus tard si vous connaissez pas. Maintenant, il n'est pas du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'est pas du tout étonnant de constater que la vie de Job porte la marque de la bénédiction divine. Job est un père comblé. Avoir 7 fils, en fait, c'est le comble de la bénédiction en Israël. Vous ne pouvez pas être plus comblé que ça. Avoir 7 fils, c'est vraiment le comble de la bénédiction. Toute sa vie porte la marque de la bénédiction divine. C'est un homme riche. À l'époque, la richesse d'un homme était évaluée en fonction de son cheptel et du nombre de ses serviteurs. Job a combien de moutons ? 7 000. Combien de chèvres ? 7 000. Combien de chameaux ? 3 000. 500 paires de bœufs. 500 ânesses, des serviteurs en très grand nombre. Il peut ouvrir un restaurant sans problème, sans aucun problème. Mais après tout, réfléchissez, c'est normal, non ? Un Dieu qui fait bien son job, un Dieu qui fait bien son travail, un Dieu digne de ce nom, récompense ceux qui le craignent, en déversant sur eux une multitude de bénédictions. C'est normal, non ? Si Dieu fait bien son job. Et inversement, ou de la même manière, un Dieu digne de ce nom, un Dieu qui fait bien son job, un Dieu qui fait bien son travail, qui gère bien le monde, qui gère bien vos vies, punit ceux qui le méprisent, ceux qui n'ont aucun respect pour eux, en déversant sur eux une pluie de malheur, de malédiction. Mais c'est normal, non ? C'est comme ça que les choses se passent. Le problème, le seul problème, c'est que c'est une pluie de malheur, de terrible malédiction qui va s'abattre sur Job. Et à partir du verset 6, c'est un peu comme au théâtre. Je ne sais pas si vous avez déjà été au théâtre dans votre vie, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois. C'est vraiment très intéressant. Ce matin, en fait, nous sommes un peu au théâtre. Nous sommes aux premières loges. Vous êtes, en tant que lecteur, nous sommes, en tant que lecteur, aux premières loges d'un drame en 4 actes. 4 actes qui vont alterner entre ciel et terre et dont les 3 premiers sont marqués par la même formule. Est-ce que vous l'avez remarqué, cette formule ? Il y eut un jour. Il y eut un jour. Je vous propose donc de passer en revue ces 4 actes. Premier acte, et comme il est fait mention dans vos livrets, dans la salle du conseil du Seigneur. Dans la salle du conseil du Seigneur. Lisons les versets 6 à 12 ensemble. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job te craint ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Bienvenue dans la salle du conseil du Seigneur. Bienvenue dans la salle de réunion du gouvernement spirituel du monde. Bienvenue à l'Assemblée nationale du gouvernement spirituel du monde. Une scène vraiment très rare dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible à laquelle vous avez, nous avons en tant que lecteurs le privilège d'assister. On est dans les coulisses du monde spirituel. Et ce conseil est présidé par le Seigneur Dieu en personne, autour duquel se rassemble sa cour, composée de créatures spirituelles. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Elle parle d'anges. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Il s'agit de créatures spirituelles, peut-être d'anges, auxquelles le Seigneur a confié un certain pouvoir sur la terre et la responsabilité de faire sa volonté. Et parmi les membres de cette cour, il y a un intrus. Est-ce que vous l'avez remarqué, cet intrus ? Difficile, hein ? Satan. Le Satan. En fait, Satan, c'est pas du tout un nom propre, c'est un nom, tout ce qu'il y a de plus commun. Le Satan. L'accusateur, l'ennemi, l'adversaire de Dieu et des hommes. Votre ennemi, mon ennemi, notre ennemi. Et vous voyez, c'est peut-être parce qu'il n'a strictement rien à faire là, c'est peut-être parce que c'est un intrus que Dieu lui demande de rendre des comptes. Regardez encore avec moi le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Une réponse assez évasive. Verset 8. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Mon serviteur, c'est vraiment une distinction spéciale. C'est un peu comme si on décernait la Légion d'honneur à quelqu'un. Mon serviteur, c'est une distinction vraiment spéciale dans l'Ancien Testament. Réservée, vous savez à qui ? À Abraham, à Isaac, à Jacob, et notamment aux serviteurs de l'Éternel. C'est pas n'importe qui est le serviteur, qui est mon serviteur, le serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais vous savez quoi ? Satan n'est pas du tout impressionné. Pas du tout. Il va non seulement remettre en question l'intégrité de Job, mais aussi, de manière très subtile, et j'espère vraiment qu'on va le comprendre, la bonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Tu parles, fais-moi rire. Job n'est qu'un mercenaire. C'est un mercenaire. Est-ce de manière désintéressée ou intéressée qu'il te craint ? Tu le protèges, lui et sa famille. Le ton est très accusateur, entre parenthèses. Toute sa vie porte la marque de ta bénédiction. Pas étonnant qu'il te révère. C'est pas étonnant. N'importe qui en ferait autant. Tu lui facilites vraiment la vie, tu lui facilites la tâche. Tu n'es pas assez bon. Et c'est en cela que Satan remet en question la bonté de Dieu, vous comprenez ? Dieu, tu n'es pas assez bon pour que Job te révère uniquement pour ce que tu es. Tu as besoin de le bénir, de le protéger pour qu'il te révère, pour qu'il te craigne. Vous comprenez ? Mais reprends ce que tu lui as donné. Reprends ce que tu lui as donné et tu verras. Tu verras. Il te maudira en face. Et là, de manière surprenante, j'ai même envie de dire déconcertante, Dieu dit banco, bingo, qu'à cela ne tienne, il accepte de relever le défi. Il ne permet pas à Satan de toucher à la vie de Job. Vous avez remarqué, il reste maître de la situation. Mais il livre entre ses mains tout ce qui appartient à Job. Comment comprendre ? Dieu fait-il bien son job de Dieu ? Son travail ? Retour sur terre, au pays de Job, à partir du verset 13, c'est le deuxième acte. Vous avez vu à partir du verset 13, comment ça commence ? Il y eut un jour, selon les versions. En hébreu, va yoyi a yom, yom, yom kippour, etc. C'est le deuxième acte dans le pays de Job, des versets 13 à 22, que je vous propose de lire ensemble. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères aînés, un messager arriva vers Job et lui dit : Les bœufs labourés et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il a parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, des Chaldéens répartis en trois bandes sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés, ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. C'est le deuxième acte. Vous avez vu comment dans cette scène, on est de retour dans le pays de Job, retour sur terre. Job qui ne savait pas du tout ce qui s'est passé dans la salle du conseil du Seigneur, contrairement à vous, contrairement à nous, perd en une journée ce que nous allons peut-être perdre en une seule vie. Ces bœufs, ces ânes et ces chameaux qui ont été volés, ces serviteurs qui ont été massacrés, ces brebis foudroyées, ces enfants qui ont été mort dans une tempête, je n'ai qu'une seule petite fille. C'est un privilège, je l'aime beaucoup. Je n'ose même pas, mais même pas imaginer la douleur que pourrait provoquer sa perte. Imaginez avoir perdu 10 enfants. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, mais 10 enfants. C'est terrible. C'est terrible. En signe de deuil, Job déchire son manteau, il se rase la tête et il fait preuve d'une attitude exemplaire. Il réagit d'une manière qui honore vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur. Au lieu de le maudire, que fait-il ? Tout le contraire, il le bénit. Il dit du bien, c'est ça ce que veut dire bénir. Il dit du bien de Dieu et il confesse sa souveraineté absolue. Il est venu dans le monde sans rien, il en repartira sans rien. En fait, il ne mérite rien. Tout ce qui lui appartient, c'est un don de Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Qu'il soit loué. Job ne craint pas du tout, mais pas du tout Dieu, de manière intéressée. C'est un homme intègre et droit, qui n'a strictement rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Mais ses malheurs ne font malheureusement, si j'ose dire, que commencer. Et nous sommes de retour dans la salle du conseil du Seigneur. Vous êtes prêts ? Il y eut un jour, à partir du chapitre 2 et au verset 1. Vous avez remarqué, il y eut un jour. C'est l'acte 3, dans la salle du conseil du Seigneur. Chapitre 2, versets 1 à 6. Lisons ensemble ce passage. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Une réponse vraiment évasive. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau. » En fait, petite parenthèse, peau contre peau, c'est pas facile à traduire, on sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est peut-être l'équivalent, vous savez, de notre expression idiomatique « donnant-donnant » ou « échange de bons procédés ». Tout ça pour dire que Job craint Dieu en échange de quelque chose, et en l'occurrence, en échange de sa santé. Je reprends la lecture. Peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main sur lui. Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Ce troisième acte fait clairement écho au premier. Vous avez vu, hein, les fils de Dieu se présentent devant le Seigneur. Satan s'incruste. Dieu lui fait à nouveau remarquer l'intégrité de son serviteur Job, une distinction spéciale, et sa droiture, qui, malgré ses malheurs, fait preuve d'une très grande persévérance dans son intégrité. Job est le serviteur de Dieu, qui le craint de manière totalement désintéressée, et ce malgré ses difficultés. Mais encore une fois, il en faut plus, beaucoup plus pour impressionner Satan. Regardez ce qu'il dit. « Tu parles, fais-moi rire. » Job a peut-être perdu tout ce qu'il avait, mais il n'a pas encore été touché dans sa chair, dans sa personne. Et il continue de te craindre en échange de quoi ? En échange de sa vie. Encore une fois, Dieu, tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez bon, le temps est accusateur. Pour qu'il te révère uniquement pour ce que tu as besoin de lui accorder la bénédiction, de la santé pour qu'il t'aime, pour qu'il te révère. Mais fais-lui la peau, entre guillemets. Fais-lui la peau et tu verras, il te maudira en face. Et là, Dieu dit, ça suffit, on arrête comme ça. Job a assez souffert, pour rien en plus, c'est en vain que tu m'incites à le perdre. Stop, on arrête. Mais pas du tout. Pas du tout, de manière vraiment surprenante, parfois déconcertante. Dieu accepte une nouvelle fois de relever le défi. Il ne permet pas à Satan de toucher à la vie de Job, il reste encore et toujours maître de la situation. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'il fait ? Il le livre. Il le livre. Entre les mains du diable. Comment comprendre ? Comment comprendre ça ? Dieu fait-il bien son job ? Dieu fait-il bien son travail ? Sans transition, cette fois, retour sur terre, c'est le quatrième et le dernier acte dans le pays de Job, chapitre 2, à partir du verset 7. Nous sommes de retour au pays de Job jusqu'au verset 10. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. C'est le dernier acte, acte 4, dans le pays de Job. Après avoir touché Dieu dans ce qui lui est cher, C-H-E-R, Satan touche maintenant Job dans sa chair, C-H-A-I-R. Job est mal. Très mal dans sa peau. Très, très mal. De quel mal souffre-t-il exactement ? Les médecins dans notre salle ont peut-être leur idée sur la question. Certains commentateurs pensent à la lèpre, d'autres pensent à la petite vérole, d'autres pensent à une maladie dont j'ai appris l'existence, l'éléphantiasis, qui était apparemment, je parle sous le contrôle de Sherazade, une maladie du système lymphatique. C'est vraiment très difficile à dire. On ne sait pas vraiment de quel mal souffre Job. Mais tout ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que le pauvre Job souffre le martyre. La situation semble tellement désespérée que sa femme, rappelez-vous, qui a perdu 10 enfants, c'est dur pour un père, c'est dur pour une mère, c'est terrible. La situation est tellement désespérée que sa femme qui a perdu 10 enfants et qui ne supporte peut-être plus de voir son mari dans cet état, lui demande de maudire Dieu, mais maudit Dieu, voyons, et d'en finir, meurt. Mais Job fait preuve d'une attitude remarquable, exemplaire, je cherche mes mots, jobesque, tant cette attitude lui est propre, on pourrait peut-être inventer un mot qui caractérise l'attitude exemplaire, remarquable de Job dans ce passage. Il a Dieu dans la peau, il a vraiment le Seigneur dans la peau, il aime de tout son cœur. Au lieu de le maudire, il se soumet humblement à sa façon de faire son job, à la façon de faire son travail, à sa façon de gérer le monde, en acceptant de recevoir de lui le bonheur comme le malheur. Et là, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Ce n'est pas une question facile. Mais si je me permets de vous poser cette question, c'est que je me la suis posée, d'accord ? Et que je me la pose encore. Vous êtes prêts ? Comment auriez-vous réagi à la place de Job ? Comment aurais-je réagi à la place de Job ? Comment réagissez-vous quand le sort, quand le malheur semble s'acharner injustement contre vous ? Comment réagissez-vous quand vous ne comprenez pas tout ce que Dieu fait ou ne fait pas dans votre vie ? Comment ça se passe entre vous et Dieu ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous remettez en question sa bonté, son existence, sa justice? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Et si nous craignons Dieu, comme c'est le cas de Job, quel est le fondement, quelle est la raison d'être de cette crainte, Pourquoi craignez-vous Dieu après tout? Vous comprenez? Quelle est la base? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pour rien, de manière complètement désintéressée, ou pour quelque chose? En échange de votre santé? En échange de votre confort matériel? En échange d'une vie sentimentale épanouie? En vie d'un parcours scolaire, universitaire, réussi? En vue de votre succès aux examens? En vue de votre acceptation dans telle ou telle école d'ingénieur? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi craignez-vous Dieu? Pourquoi est-ce que je crains Dieu? Par amour pour lui ou par amour pour moi? Pour ce qu'il me donne, pour ce qu'il vous donne, ou tout simplement pour ce qu'il est? Pourquoi craignez-vous Dieu? J'aimerais conclure rapidement en reposant cette question fondamentale qui, comme vous l'avez compris, est le message central, à mon avis, de ces deux premiers chapitres. Dieu fait-il bien son job? Dieu fait-il bien son travail? Est-ce qu'il gère bien le monde dans lequel nous vivons? Je pense que le prologue que nous avons lu, je vous le répète, joue un rôle très important dans le livre parce qu'il va nous donner, à mon avis, trois informations capitales. Et c'est l'objet du dernier point dans vos livrets. Trois informations capitales, non seulement pour nous aider à répondre à toutes ces questions, mais aussi pour nous aider à comprendre la suite du livre de Job. D'accord? Trois informations capitales. La première information qu'il va bien falloir garder à l'esprit au fur et à mesure de notre lecture, c'est celle-ci. La toute-puissance du Seigneur. Certains théologiens pensent avoir répondu à toutes ces questions, à toutes les questions que nous nous sommes posées, pensent avoir résolu le problème de la souffrance injuste en comparant Dieu à Garry Kasparov. Vous connaissez tous Garry Kasparov, un très célèbre joueur d'échecs qui a été champion du monde de 85 à 2000, mais un joueur d'échecs quand même pas assez fort pour anticiper tous les coups de l'adversaire et pour tout le temps gagner à coup sûr. Certains théologiens ont comparé Dieu un peu à Garry Kasparov, un maître certes, mais qui n'est pas vraiment sûr, qui ne connaît pas vraiment l'avenir, qui ne contrôle pas vraiment la situation, qui ne peut pas gagner à coup sûr sa partie d'échecs contre l'ennemi, contre le diable. Quel est le problème de cette solution? Le problème, c'est que le prologue du livre de Job dit exactement le contraire. Non seulement le prologue, mais toute la révélation biblique dit exactement le contraire. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse asserte que Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu totalement, radicalement et absolument, pour reprendre des paroles d'Henri Blocher dans son livre « Le mal et la croix », radicalement, totalement, est absolument souverain. Dieu n'a pas de rival. Au ciel, il n'y a qu'un seul chef, il n'y a pas deux forces égales et indépendantes, le bien et le mal, qui s'affrontent, un peu comme dans la guerre des étoiles. Ce n'est pas du tout dans la Bible, ça. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle le dualisme. Il y a Dieu dans la Bible, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers et des circonstances, que rien ne surprend et dont la souveraineté englobe et règne sur tout. Toute chose, absolument sur toute chose, et même sur le mal. Et c'est l'objet de la deuxième information assez importante dont il va falloir tenir compte. Après la toute-puissance du Seigneur, l'influence du diable, de Satan. Martin Luther, que j'espère vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, j'espère que vous le connaîtrez à la fin de cette semaine, ça fait l'objet d'un film que j'ai vu, qui est très intéressant. Martin Luther, un célèbre réformateur allemand du XVIe siècle, avait l'habitude de dire que, en fait, le diable était, je le cite, le diable de Dieu. Pour lui, le diable était le diable de Dieu, c'est-à-dire une créature de Dieu, une créature, c'est très important, qui lui est soumise, dont les pouvoirs sont restreints, et qui ne peut pas aller un millimètre, un quart de millimètre, au-delà des limites que Dieu a fixées. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le patron. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. Et ce que Luther disait, c'est vrai. Mais son influence, l'influence du diable, dans le cadre de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu, n'est quand même pas à négliger. Et c'est important de se le rappeler. Je pense que c'est aussi l'une des fonctions de ce prologue. La troisième et la dernière information vraiment très importante qu'il va falloir garder à l'esprit après la toute-puissance du Seigneur, après l'influence de Satan, c'est l'innocence de Job. L'innocence de Job. Dans le prologue, l'innocence de Job est attestée trois fois. Regardez chapitre 1, verset 1. « Cet homme, Job, était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Son innocence est non seulement attestée par l'auteur, mais elle est non seulement attestée par Dieu lui-même, non pas une, mais deux fois. Regardez chapitre 1 et le verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et encore, chapitre 2, verset 3. Et vous voyez, et c'est pour ça que c'est vraiment très important, j'attire votre attention là-dessus, dans la suite du livre de Job, et notamment demain, nous allons faire conscience avec des énergumènes que vous connaissez peut-être, des amis de Job, qui vont remettre en question cette innocence. Et grande sera la tentation pour vous, pour moi, pour tout le monde, d'en faire de même, de penser que si Job souffre, c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il a péché. De penser que si Job est coupable, c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il n'est pas innocent. Un commentateur du livre de Job écrit ceci, « Sans ce prologue, écoutez bien, sans ce prologue, sans le prologue du livre de Job, le lecteur prendrait le parti des trois consolateurs, c'est-à-dire des trois amis, pensant que Job est un scélérat, j'aime beaucoup ce mot, devenu fou, hostile à Dieu et qui se fait des illusions sur sa propre vertu morale. En lisant la suite du livre de Job, et notamment demain en faisant connaissance avec les amis de Job, n'oublions jamais, au grand jamais, que Job est totalement innocent et qu'il a souffert, alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça, que c'est une préfiguration finalement, une annonce de celui qui, plus juste que lui, a souffert plus que lui, pour nous donner plus que n'importe qui, le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble, pour finir. Donc vous allez peut-être faire la connaissance cette semaine, père de l'Église qu'on ne présente plus, à une expression latine qui m'échappe parce que je n'ai pas fait de latin, puis j'en ai fait, mais j'étais tellement nul qu'on m'a fait arrêter le latin en quatrième. Bref, David serait beaucoup plus mieux placé que moi pour y répondre. Et pour lui, c'est un peu l'associé du diable. Pour saint Augustin, la femme de Job, c'est l'associé du diable qui dont Satan se sert pour encourager Job à maudire Dieu. C'est une interprétation de la fonction un peu narrative de la femme de Job, tu vois, pour l'encourager à maudire Dieu, quoi. Et c'est une interprétation possible. Sinon, de manière purement objective, elle en a vraiment marre, quoi. Elle en a vraiment marre. Elle a perdu ses 10 gamins. Ça doit être terrible pour elle. Elle en a peut-être marre de voir son mari dans cet état. Et elle encourage tout simplement son mari à dire « Écoute, tu vois bien que ton Dieu n'est pas là. Ton Dieu ne te bénit pas. Pourquoi tu continues à le bénir ? Quelle est ta raison pour le bénir ? Il ne te donne plus rien. » Vous voyez ? Et dans ce cadre-là, l'interprétation de saint Augustin prend tout son sens, à mon avis. Un associé du diable, quelque part. Je reste prudent. Oui, c'est là. Je ne pense pas du tout. Je pense que Dieu est un Dieu souverain qui connaît le passé, le présent, l'avenir. C'est l'impression que donne le passage, mais je crois que Dieu savait déjà à l'avance ce qui allait passer et que c'est, tout ça était prévu, personnellement. Ouais, je pense que dans la suite du livre, on va peut-être comprendre que tout cela faisait partie finalement de son plan. Le chapitre 42 va peut-être nous mettre sur cette voie. Ouais, Marion ou Florian, je ne sais pas qui a levé la main en premier, battez-vous. Donc tu vas dans mon sens alors. Ouais. 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 Merci. Merci Marion. Je crois qu'il y a un effet dramatique là, quand même assez prenant, et qu'il est parfois difficile de faire dire des choses à un procédé littéraire. Ouais. Ah, il y avait Florian, je m'excuse, mais je croyais qu'il y avait Florian qui avait posé une question, excuse-moi. Ouais. Bonne question, Florian, je la répète, c'est un peu de la provocation de Job, et finalement, le défi, ce n'est pas le diable qui le lance, c'est Dieu. J'ai lu des commentaires, j'ai lu un commentaire de David Klein, notamment dans la série Word, je ne sais pas si vous la connaissez, il répond à cette question, il dit, c'est tout à fait possible, mais aussi, ce qu'il dit David Klein, c'est que Dieu fait ça pour son propre plaisir, c'est qu'il prend vraiment plaisir à honorer son serviteur Job sans aucune arrière-pensée. Il prend vraiment plaisir dans l'intégrité, la droiture de son serviteur Job. Et dans un autre sens, certains pensent, comme tu le suggères, qu'en fait c'est Dieu qui lance un peu un défi à Satan. C'est pas facile. J'essaie d'être prudent, mais c'est pas facile. Il y avait Sam avant, je suis désolé, Od, mais il y avait Sam qui avait. Ouais. 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 Je pense que la Bible nous invite je pense qu'elle dit que les souffrances de Christ, sa mort et sa résurrection étaient prévues. C'est notamment le cas dans 1 Corinthiens 15, tout s'est passé conformément aux Écritures, d'accord ? Luc 24, tout ceci est écrit, l'Ancien Testament est écrit pour en fait annoncer ce que je vais faire, ma mort et ma résurrection. Et je pense que dans le cadre global de la révélation biblique, je crois que les souffrances de Job... peuvent nous faire penser aux souffrances de Christ, dans la mesure surtout où c'est un homme innocent qui n'a rien fait pour mériter ça. Et je crois que l'épilogue aussi va peut-être abonder dans ce sens, où elle, à mon avis, préfigure la résurrection. Donc, on pourra en reparler plus tard pour rentrer dans les détails, mais ta question est vraiment très pertinente. Merci, Yoann. Il y en a trois, donc battez-vous. C'était Yod, pardon, qui avait, oui, le... Ouais. Non, vas-y, parce que tu avais levé la main, donc vas-y. Ouais. Ok, donc peut-être Ozia, c'est ça ?
On dit que Dieu est un Dieu saint, trois fois saint.
Ouais. Comment peut-il laisser Satan entrer dans son royaume ? Dieu est un Dieu saint, trois fois saint. Comment peut-il laisser rentrer Satan dans son cercle ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question que pose le texte, en fait. Et à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Toujours est-il que Satan donne des permissions parfois surprenantes. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Dieu, pardon, lapsus. C'est le contraire, hein ? Alors, c'est ça. Hors du camp, hors du camp. Je répète ce que j'ai dit. Dieu donne parfois des permissions surprenantes, terrifiante, qu'on a du mal à comprendre, que j'ai personnellement du mal à comprendre. Toujours dit-il que le texte le dit, que Dieu est le créateur, que Satan fait partie de ses créatures et qu'il tolère, qu'il permet la présence de Satan parmi sa cour. C'est une question, bonne question, à laquelle il n'y a peut-être pas forcément de réponse, si ce n'est la toute-puissance, la souveraineté de Dieu qui sait ce qu'il fait et qui maîtrise toute chose. Je m'en tiens à ce que m'a dit Yoann. Dernière question. Vous remercie beaucoup de votre attention. Bon courage pour la suite de la journée. À demain matin pour les amis de Jean.